Cinquième partie. J'ai fait voir qu'il est absolument impossible qu'un théâtre de comédie se soutienne à Genève par le seul concours des spectateurs. Il faudra donc de deux choses l'une, ou que les riches se cotisent pour le soutenir, charge onéreuse qu'assurément ils ne seront pas d'humeur à supporter longtemps, ou que l'État s'en mêle et le soutienne à ses propres frais. Mais comment le soutiendra-t-il ? Sera-ce en retranchant sur les dépenses nécessaires auxquelles suffit à peine son modique revenu, de quoi pourvoir à celle-là? Ou bien destinera-t-il à cet usage important les sommes que l'économie et l'intégrité de l'administration permet quelquefois de mettre en réserve pour les plus pressants besoins? Faudra-t-il réformer notre petite garnison et garder nous-mêmes nos portes? Faudra-t-il réduire les faibles honoraires de nos magistrats? Ou nous ôterons-nous pour cela toute ressource au moindre accident imprévu? Au défaut de ces expédients, je n'en vois qu'un qui soit praticable. C'est la voie des taxes et impositions. C'est d'assembler nos concitoyens et bourgeois au Conseil général, dans le temple de Saint-Pierre, et là de leur proposer gravement d'accorder l'impôt pour l'établissement de la comédie. À Dieu ne plaise que je ne croie nos sages et dignes magistrats capable de faire jamais une proposition semblable. Et sur votre propre article, on peut juger assez comment elle serait reçue. Si nous avions le malheur de trouver quelque expédient propre à lever ces difficultés, ce serait tant pis pour nous, car cela ne pourrait se faire qu'à la faveur de quelques vices secrets qui, nous affaiblissant encore dans notre petitesse, nous perdraient enfin tôt ou tard. Supposons pourtant qu'un Brousel du théâtre nous fit faire un pareil miracle. Supposons les comédiens bien établis dans Genève, bien contenus par nos lois, la comédie florissante et fréquentée. Supposons enfin notre ville dans l'état où vous dites qu'ayant des mœurs et des spectacles, elle réunirait les avantages des uns et des autres. Avantages au reste qui me semble peu compatible, car celui des spectacles n'étant que le suppléer aux mœurs est nul partout où les mœurs existent. Le premier effet sensible de cet établissement sera, comme je l'ai dit, une révolution dans nos usages, qui en produira nécessairement une dans nos mœurs. Cette révolution sera-t-elle bonne ou mauvaise? C'est ce qu'il est temps d'examiner. Il n'y a point d'État bien constitué où l'on ne trouve des usages qui tiennent à la forme du gouvernement et servent à la maintenir. Tel était, par exemple, autrefois à Londres, celui des coteries, si mal à propos tournées en dérision par les auteurs du Spectateur. À ces coteries, ainsi devenues ridicules, ont succédé les cafés et les mauvais lieux. Je doute que le peuple anglais ait beaucoup gagné au change. Les coteries semblables osent maintenant établies à Genève sous le nom de cercle, et j'ai lieu, monsieur, de juger par votre article que vous n'avez pas observé sans estime le ton de sens et de raison qu'elles y sont régnées. Cet usage est ancien parmi nous, quoique son nom ne soit pas. Les coteries existaient déjà dans mon enfance sous le nom de société, mais la forme en était moins bonne et moins régulière. L'exercice des armes qui nous rassemble tous les printemps, les divers prix qu'on tire une partie de l'année, les fêtes militaires que ces prises occasionnent, le goût de la chasse commun à tous les Genevois, réunissant fréquemment les hommes, leur donnait occasion de former entre eux des sociétés de table, des parties de campagne, enfin des liaisons d'amitié. Mais ces assemblées n'ayant pour objet que le plaisir et la joie ne se formaient guère qu'au cabaret. Nos discordes civiles, où la nécessité des affaires obligeait de s'assembler plus souvent et de délibérer de sang-froid, firent changer ces sociétés tumultueuses en des rendez-vous plus honnêtes. Ces rendez-vous prirent le nom de cercle et d'une forte tri-cause sont sortis de très bons effets. Ces cercles sont des sociétés de 12 ou 15 personnes qui louent un appartement commode, qu'on pourvoit à frais communs, de meubles et de provisions nécessaires. C'est dans cet appartement que se rendent tous les après-midi ceux des associés que leurs affaires ou leurs plaisirs ne retiennent point ailleurs. On s'y rassemble et là, chacun se livrant sans gêne aux amusements de son goût, on joue, on cause, on lit, on boit, on fume. Quelquefois on y soupe, mais rarement, parce que le Genevois est rangé et se plaît à vivre avec sa famille. Souvent aussi on va se promener ensemble et les amusements qu'on se donne sont des exercices propres à rendre et maintenir le corps robuste. Et les femmes et les filles, de leur côté, se rassemblent par société, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. L'objet de cette réunion est un petit jeu de commerce, un goûter et, comme on peut bien croire, un intarissable babil. Les hommes, sans être fort sévèrement exclus de ces sociétés, s'y mêlent assez rarement. Et je penserai plus mal encore de ceux qu'on y voit toujours que de ceux qu'on n'y voit jamais. Tels sont les amusements journaliers de la bourgeoisie de Genève. Sans être dépourvus de plaisir et de gaieté, ces amusements ont quelque chose de simple et d'innocent qui convient à des mœurs républicaines. Mais dès l'instant qu'il y aura comédie, adieu les cercles, adieu les sociétés. Voilà la révolution que j'ai prédite. Tout cela tombe nécessairement. Et si vous m'objectez l'exemple de Londres, cité par moi-même, où les spectacles établis n'empêchaient point les coteries, je répondrai qu'il y a, par rapport à nous, une différence extrême. C'est qu'un théâtre qui n'est qu'un point dans cette ville immense sera dans la nôtre un grand objet qui absorbera tout. Si vous me demandez ensuite où est le mal que les cercles soient abolis, non, monsieur, cette question ne viendra pas d'un philosophe. C'est un discours de femme ou de jeune homme qui traitera nos cercles de corps de garde et croira sentir l'odeur du tabac. Faut pourtant répondre, car pour cette fois, quoique je m'adresse à vous, j'écris pour le peuple, et sans doute il y paraît, mais vous m'y avez forcé. Je dis premièrement que si c'est une mauvaise chose que l'odeur du tabac, c'en est une fort bonne de rester maître de son bien et d'être sûr de coucher chez soi. Mais j'oublie déjà que je n'écris pas pour des d'Alembert. Bon, il faut m'expliquer d'une autre manière. Suivons les indications de la nature, consultons le bien de la société. Nous trouverons que les deux sexes doivent se rassembler quelquefois et vivre ordinairement séparés. Je l'ai dit tantôt par rapport aux femmes, je le dis maintenant par rapport aux hommes. Ils se sentent autant et plus qu'elles de leur trop intime commerce. Elles n'y perdent que leurs mœurs, et nous y perdons à la fois nos mœurs et notre constitution. Car ce sexe plus faible, hors d'état de prendre notre manière de vivre trop pénible pour lui, nous force de prendre la sienne, trop molle pour nous, et ne voulant plus souffrir de séparation, faute de pouvoir se rendre hommes les femmes, grandes femmes. Cet inconvénient qui dégrade l'homme est très grand partout, mais c'est surtout dans les états comme le nôtre qu'il importe de le prévenir. Qu'un monarque gouverne hommes ou des femmes, cela lui doit être assez indifférent pourvu qu'il soit obéi. Mais dans une république, il faut des hommes. Les anciens passaient presque leur vie en plein air, ou vacant à leurs affaires, ou réglant celles de l'État, sur la place publique, ou le promenant à la campagne, dans les jardins, au bord de la mer, à la pluie, au soleil, et presque toujours tête nue. À tout cela, point de femmes. Mais on savait bien les trouver au besoin, et nous ne voyons point par leurs écrits et par leurs échantillons de leurs conversations qui nous restent, que l'esprit, ni le goût, ni l'amour même, perdissent rien à cette réserve. Pour nous, nous avons pris des manières toutes contraires. Lâchement dévoués aux volontés du sexe que nous devrions protéger et non servir, nous avons appris à le mépriser en lui obéissant, à l'outrager par nos soins railleurs. Et chaque femme de Paris ressemble dans son appartement un sérail d'hommes plus femme qu'elle, qui savent rendre à sa beauté toutes sortes d'hommages, hors celui du cœur, dont elle est digne. Mais voyez ces mêmes hommes, toujours contraints dans ces prisons volontaires, se lever, se rasseoir, aller et venir sans cesse à la cheminée, à la fenêtre, prendre et poser 100 fois un écran, feuilleter des livres, parcourir des tableaux, tourner, pirouetter par la chambre, tandis que l'idole, étendue sans mouvement dans sa chaise longue, n'a d'actif que la langue et les yeux. D'où vient cette différence, si ce n'est que la nature qui impose aux femmes cette vie sédentaire et casanière, en prescrit aux hommes une toute opposée, et que cette inquiétude indique en eux un vrai besoin. Si les orientaux, que la chaleur du climat fait assez transpirer, font peu d'exercice et ne se promènent point, au moins ils vont s'asseoir en plein air et respirer à leur aise, au lieu qu'ici, les femmes ont grand soin d'étouffer leurs amis dans de bonnes chambres bien fermées. Si l'on compare la force des hommes anciens à celle des hommes d'aujourd'hui, on n'y trouve aucune espèce d'égalité. Nos exercices de l'académie sont des jeux d'enfants auprès de ceux de l'ancienne gymnastique. On a quitté la paume comme trop fatigante. On ne peut plus voyager à cheval. Je ne dis rien de nos troupes. On ne conçoit plus les marches des armées grecques et romaines. Le chemin, le travail, le fardeau du soldat romain fatiguent seulement de le lire et accablent l'imagination. Le cheval n'était pas permis aux officiers d'infanterie. Souvent, les généraux faisaient à pied les mêmes journées que leurs troupes. Jamais les deux Catons n'ont autrement voyagé, ni seuls, ni avec leurs armées. Othon lui-même, l'efféminé Othon, marchait, arme de fer à la tête de la sienne, allant au-devant de Vitellius. Qu'on trouve à présent un seul homme de guerre capable d'en faire autant? Nous sommes déchus en tout. Nos peintres et nos sculpteurs se plaignent de ne plus trouver de modèles comparables à ceux de l'Antique. Pourquoi cela? L'homme a-t-il dégénéré? L'espèce a-t-elle une crédérépitude physique ainsi que l'individu? Au contraire, les barbares du Nord, qui ont, pour ainsi dire, peuplé l'Europe d'une nouvelle race, étaient plus grands et plus forts que les Romains, qu'ils ont vaincus et subjugués. Nous devrions donc être plus forts nous-mêmes que, pour la plupart, descendants de ces nouveaux venus. Mais les premiers Romains vivaient en hommes et trouvaient dans leur continuel exercice la vigueur que la nature leur avait refusée, au lieu que nous perdons la nôtre dans la vie indolente et lâche où nous réduit la dépendance du sexe. Si les barbares dont je viens de parler vivaient avec les femmes, ils ne vivaient pas pour cela comme elles. C'était elles qui avaient le courage de vivre comme eux, ainsi que faisait aussi celle de Sparte. La femme se rendait robuste, et l'homme ne s'énervait pas. Si ce soin de contrarier la nature est nuisible au corps, il l'est encore plus à l'esprit. Imaginez quelle peut être la trempe de l'âme d'un homme uniquement occupé de l'importante affaire d'amuser les femmes, et qui passe sa vie entière à faire pour elles ce qu'elles devraient faire pour nous, quand, épuisées de travaux dont elles sont incapables, nos esprits ont besoin de délassement. Livrés à ces puériles habitudes, à quoi pourrions-nous jamais nous élever de grands? Nos talents, nos écrits se sentent de nos frivoles occupations. Agréable, si l'on veut, mais petits et froids comme nos sentiments, ils ont pour tout mérite ce tour facile qu'on n'a pas grand-peine à donner à des riens. Ces foules d'ouvrages éphémères qui naissent journellement, n'étant faits que pour amuser des femmes et n'ayant ni force ni profondeur, volent tous de la toilette au comptoir. C'est le moyen de réécrire incessamment les mêmes et de les rendre toujours nouveaux. On m'en citera deux ou trois qui serviront d'exception, mais moi j'en citerai 100 000 qui confirmeront la règle. C'est pour cela que la plupart des productions de notre âge passeront avec lui, et la postérité croira qu'on fit bien un peu de livres dans ce même siècle où l'on en fait tant. Il ne serait pas difficile de montrer qu'au lieu de gagner à ces usages, les femmes y perdent. On les flatte sans les aimer, on les sert sans les honorer. Elles sont entourées d'agréables, mais elles n'ont plus d'amants. Et le pire est que les premiers, sans avoir les sentiments des autres, n'en usurpent pas moins tous les droits. La société des sexes, devenue trop commune et trop facile, a produit ces deux effets. Et c'est ainsi que l'esprit général de la galanterie étouffe à la fois le génie et l'amour. Pour moi, j'ai peine à concevoir comment on rend assez peu d'honneur aux femmes pour leur oser adresser sans cesse ces fades propos galants, ces compliments insultants et moqueurs, auxquels on n'aille même pas donner un air de bonne foi. Les outrager par ces évidents mensonges, n'est-ce pas leur déclarer assez nettement qu'on ne trouve aucune vérité obligeante à leur dire ? Que l'amour se fasse illusion sur les qualités de ce qu'on aime, cela n'arrive que trop souvent. Mais est-il question d'amour dans tout ce maussade jargon ? Ceux mêmes qui s'en servent ne s'en servent-ils pas également pour toutes les femmes, et ne serait-il pas au désespoir qu'on ait cru sérieusement amoureux d'une seule ? Qui ne s'en inquiète pas ? Il faudrait avoir d'étranges idées de l'amour pour les en croire capables, et rien n'est plus éloigné de son ton que celui de la galanterie. De la manière que je conçois cette passion terrible, son trouble, ses égarements, ses palpitations, ses transports, ses brûlantes expressions, son silence plus énergique, ses inexprimables regards, que leur timidité rend téméraire et qui montrent les désirs par la crainte, il me semble qu'après un langage aussi véhément, si l'amant venait à dire une seule fois « je vous aime », l'amant indigné lui dirait « vous n'aimez plus » et ne le reverrait de sa vie. Nos cercles conservent encore parmi nous quelque image des mœurs antiques. Les hommes entre eux, dispensés de rabaisser leurs idées à la portée des femmes et d'habiller galamment la raison, peuvent se livrer à des discours graves et sérieux, sans crainte du ridicule. On ose parler de patrie, de vertu, sans passer pour rabâcheur. On ose être soi-même sans s'asservir aux maximes d'une caillette. Si le tour de la conversation devient moins poli, les raisons prennent plus de poids. On ne se paie point de plaisanterie ni de gentillesse. On ne se tire point d'affaire par de bons mots, on ne se ménage point dans la dispute. Chacun, se sentant attaqué de toutes les forces de son adversaire, est obligé d'employer toutes les siennes pour le détendre. Voilà comment l'esprit acquiert de la justesse et de la vigueur. S'il se mêle à tout cela quelques propos licencieux, il ne faut point trop s'en effaroucher. Les moins grossiers ne sont pas toujours les plus honnêtes, et ce langage un peu rusto est préférable encore à ce style plus recherché dans lequel les deux sexes se séduisent mutuellement et se familiarisent décemment avec le vice. La manière de vivre plus conforme aux inclinations de l'homme est aussi mieux assortie à son tempérament. Un ne reste point toute la journée établi sur une chaise. On se livre à des jeux d'exercice, on va, on vient. Plusieurs cercles se tiennent à la campagne, d'autres y s'y rendent. On a des jardins pour la promenade, des cours spacieuses pour s'exercer, un grand lac pour nager, tout le pays ouvert pour la chasse. Donc il ne faut pas croire que cette chasse se fasse aussi commodément qu'aux environs de Paris, où l'on trouve le gibier sous ses pieds et où l'on tire à cheval. Enfin, ces honnêtes et innocentes institutions rassemble tout ce qui peut contribuer à former dans les mêmes hommes des amis, des citoyens, des soldats, et par conséquent, tout ce qui convient le mieux à un peuple libre. On accuse d'un défaut les sociétés des femmes, c'est de les rendre médisantes et satiriques. Et l'on peut bien comprendre, en effet, que les anecdotes d'une petite ville n'échappent pas à ces comités féminines. On pense bien aussi que les maris absents y sont peu ménagés et que toute femme jolie et fêtée n'a pas beau jeu dans le cercle de sa voisine. Mais peut-être y a-t-il dans cet inconvénient plus de bien que de mal, et toujours est-il incontestablement moindre que ceux dont il tient la place. Car lequel vaut mieux, qu'une femme dise avec ses amis du mal de son mari, ou que tête à tête avec un homme elle lui en fasse qu'elle critique le désordre de sa voisine ou qu'elle l'imite. Quoique les Genevoises disent assez librement ce qu'elles savent, et quelquefois ce qu'elles conjecturent, elles ont une véritable horreur de la calomnie, et l'on ne rentendra jamais intenter contre autrui des accusations qu'elles croient fausses. Tandis qu'en d'autres pays, les femmes, également coupables par leur silence et par leur discours, cachent, de peur de représailles, le mal qu'elles savent et publient par vengeance, celui qu'elles ont inventé. Combien de scandales publics ne retient pas la crainte de ces sévères observatrices? Elles font presque dans notre ville la fonction de censeur. C'est ainsi que dans les beaux temps de Rome, les citoyens, surveillant les uns les autres, s'accusaient publiquement par zèle pour la justice. Mais quand Rome fut corrompue et qu'il ne resta plus rien à faire pour les hommes bonnes mœurs que de cacher les mauvaises, la haine des vices qui les démasque en devint un. Aux citoyens zélés succédèrent des délateurs infâmes, et au lieu qu'autrefois les bons accusaient les méchants, ils en furent accusés à leur tour. Grâce au ciel, nous sommes loin d'un terme si funeste. Nous ne sommes point réduits à nous cacher à nos propres yeux de peur de nous faire horreur. Pour moi, je n'en aurai pas meilleure opinion des femmes quand elles seront plus circonspectes. On se ménagera davantage quand on aura plus de raisons de se ménager, et quand chacune aura besoin pour elle-même de la discrétion dont elle donnera l'exemple aux autres. Qu'on ne s'alarme donc point tant du caquet des sociétés de femmes. Qu'elles médisent tant qu'elles voudront, pourvu qu'elles médisent entre elles. Des femmes véritablement corrompues ne sauraient supporter longtemps cette manière de vivre, et quelque chère que leur pût être l'obéissance, elles voudraient médire avec des hommes. Quoi qu'on m'ait pu dire à cet égard, je n'ai jamais vu aucune de ces sociétés sans un secret mouvement d'estime et de respect pour celles qui la composent. Telle est, me disais-je, la destination de la nature qui donne différents goûts aux deux sexes afin qu'ils vivent séparés et chacun à sa manière. Ces aimables personnes passent ainsi leurs jours, livrées aux occupations qui leur conviennent ou à des amusements innocents et simples, très propres à toucher un cœur honnête et à donner bonne opinion d'elles. Je ne sais ce qu'elles ont dit, mais elles ont vécu ensemble. Elles ont pu parler des hommes, mais elles se sont passées d'eux. Et tandis qu'elles critiquaient si sévèrement la conduite des autres, au moins, la leur était irréprochable. Les cercles d'hommes ont aussi leurs inconvénients, sans doute. Quoi d'humain n'a pas les siens? On joue, on boit, on s'enivre, on passe les nuits. Tout cela peut être vrai, tout cela peut être exagéré. Il y a partout mélange de bien et de mal, mais à diverses mesures. On abuse de tout axiome trivial sur lequel on ne doit tout, ni tout rejeter, ni tout admettre. La règle pour choisir est simple. Quand le bien surpasse le mal, la chose doit être admise malgré ses inconvénients. Et quand le mal surpasse le bien, il la faut rejeter même avec ses avantages. Quand la chose est bonne en elle-même et n'est mauvaise que dans ses abus, quand les abus ne peuvent être prévenus sans beaucoup de peine ou tolérés sans grand préjudice, ils peuvent servir de prétexte et non de raison pour abolir un usage utile. Mais ce qui est mauvais en soi sera toujours mauvais, quoi qu'on fasse pour en tirer un bon usage. Telle est la différence essentielle des cercles au spectacle. Les citoyens d'un même état, les habitants d'une même ville, ne sont point des anachorètes. Ils ne sauraient vivre toujours seuls et séparés. Quand ils le pourraient, il ne faudrait pas les y contraindre. Il n'y a que le plus farouche despotisme qui s'alarme à la vue de 7 ou 8 hommes assemblés, craignant toujours que leurs entretiens ne roulent sur leur misère. Or, de toutes les sortes de liaisons qui peuvent rassembler les particuliers dans une ville comme la nôtre, les cercles forment sans contredit la plus raisonnable, la plus honnête et la moins dangereuse, parce qu'elle ne veut ni ne peut se cacher, qu'elle est publique, permise, et que l'ordre et la règle y règnent. Il est même facile à démontrer que les abus qui peuvent en résulter naîtraient également de toutes les autres, ou qu'elles en produiraient de plus grands encore. Avant de songer à détruire un usage établi, on doit avoir bien pesé ceux qui s'introduisent à leur place. Quiconque en pourra proposer un qui soit praticable et duquel ne résulte aucun abus, qu'il le propose, et qu'ensuite les cercles soient abolis. À la bonne heure. En attendant, laissons, s'il le faut, passer la nuit à boire à ceux qui, sans cela, la passeraient peut-être à faire pis. Toute intempérance est vicieuse, et surtout celle qui nous ôte la plus noble de nos facultés. L'excès du vin dégrade l'homme, aliène au moins sa raison, pour un temps, et l'abrutit à la longue. Mais enfin, le goût du vin n'est pas un crime, il en fait rarement commettre. Il rend l'homme stupide et non pas méchant. Pour une querelle passagère qu'il cause, il forme 100 attachements durables. Généralement parlant, les buveurs de la cordialité, de la franchise, ils sont presque tous bons, droits, justes, fidèles, braves et honnêtes gens, à leur défaut près. En osera-t-on dire autant des vices qu'on substitue à celui-là, ou bien prétend-on faire de toute une ville un peuple d'hommes sans défaut et retenus dans toutes choses? Combien de vertus apparentes cachent souvent des vices réels? Le sage est sobre par tempérance, le fourbe l'est par fausseté. Dans les pays de mauvaises mœurs, d'intrigues, de trahisons, d'adultères, on redoute un état d'indiscrétion où le cœur se montre sans qu'on y songe. Partout, les gens qui abordent le plus l'ivresse sont ceux qui ont le plus d'intérêt à s'en garantir. En Suisse, elle est presque en estime. À Naples, elle est en horreur. Mais au fond de laquelle est le plus à craindre? De l'intempérance du Suisse ou de la réserve de l'Italien? Je le répète, il vaudrait mieux être sobre et vrai, non seulement pour soi, même pour la société, car tout ce qui est mal en morale est mal encore en politique. Mais le prédicateur dictateur s'arrête au mal personnel, le magistrat ne voit que les conséquences publiques. L'un n'a pour objet que la perfection de l'homme, où l'homme n'atteint point l'un, l'autre que le bien de l'État, autant qu'il peut y atteindre. Ainsi, tout ce qu'on a raison de blâmer en chair ne doit pas être puni par les lois. Jamais peuple n'a péri par l'excès du vin, tous périssent par le désordre des femmes. La raison de cette différence est claire. Le premier de ces deux vices détourne les autres, le second les engendre tous. La diversité des âges y fait encore. Le vin tente moins la jeunesse et l'abat moins aisément. Un sang ardent lui donne d'autres désirs. Dans l'âge des passions, toutes s'enflamment au feu d'une seule. La raison s'altère en naissant, et l'homme, encore indompté, devient indisciplinable avant que d'avoir porté le joug des lois. Mais qu'un sang à demi glacé cherche un secours qui le ranime, qu'une liqueur bienfaisante supplée aux esprits qu'il n'a plus, quand un vieillard abuse de ce doux remède, il a déjà rempli ses devoirs envers sa patrie. Il ne la prive que du rebut de ses amis, de ses ans. Il a tort, sans doute. Il cesse avant la mort d'être citoyen, mais l'autre ne commence pas même à l'être. Il se rend plutôt l'ennemi public par la séduction des complices, par l'exemple et l'effet de ses mœurs corrompues, surtout par la morale pernicieuse qu'il ne manque pas de répandre pour les autoriser. Il faudrait bien qu'ils n'eussent point existé. De la passion du jeu naît un plus dangereux abus, mais qu'on prévient ou réprime aisément. C'est une affaire de police, dont l'inspection devient plus facile et mieux séante dans les cercles que dans les maisons particulières. L'opinion peut beaucoup encore ce point. Et sitôt qu'on voudra mettre en honneur les jeux d'exercice et d'admire les cartes, les dés, les jeux de hasard, tomberont infailliblement. Je ne crois pas même, quoi qu'on en dise, que ces moyens oisifs et trompeurs de remplir sa bourse prennent jamais grand crédit chez un peuple raisonneur et laborieux qui connaît trop le prix du temps et de l'argent pour aimer à les perdre ensemble. Conservons donc les cercles, même avec leurs défauts, car ces défauts ne sont pas dans les cercles, mais dans les hommes qui les composent. Il n'y a point dans la vie sociale de forme imaginable sous laquelle ces mêmes défauts ne produisent de plus nuisibles effets. Encore un coup, ne cherchons point la chimère de la perfection, mais le mieux possible selon la nature de l'homme et la constitution de la société. Il y a tel peuple à qui je dirais « Détruisez cercles et coteries, ôtez toute barrière de bienséance entre les sexes, remontez s'il est possible jusqu'à n'être que corrompu, mais vous, Genevois, évitez de le devenir s'il est temps encore. Craignez le premier pas qu'on ne fait jamais seul, et songez qu'il est plus aisé de garder de bonnes mœurs que de mettre un terme aux mauvaises. » 2 ans seulement de comédie et tout est bouleversé. L'on ne saurait se partager entre tant d'amusements. L'heure des spectacles étant celle des cercles, les fera dissoudre. Il s'en détachera trop de membres. Ceux qui resteront seront trop peu assidus pour être d'une grande ressource les uns aux autres et laisser subsister longtemps les associations. Les deux se réunissent journellement dans un même lieu, les parties qui se lieront pour s'y rendre, les manières de vivre qu'on y verra dépeintes et qu'on s'empressera d'imiter, l'exposition des dames et demoiselles parée tout de leur mieux et mise en étalage dans des loges comme sur le devant d'une boutique en attendant des acheteurs, l'affluence de la belle jeunesse qui viendra de son côté s'offrir en montre et trouvera bien plus beau de faire des entrechats au théâtre que l'exercice à plein palais, les petits soupers de femmes qui s'arrangeront en sortant, ne fût-ce qu'avec les adrices, enfin le mépris des anciens usages qui résultera de l'adoption des nouveaux. Tout cela substituera bientôt l'agréable vie de Paris et les bons airs de France à notre ancienne simplicité, et je doute un peu que des Parisiens à Genève qui conserve longtemps le goût de notre gouvernement. Il ne faut point le dissimuler, les intentions sont droites encore, mais les mœurs inclinent déjà visiblement vers décadence, et nous suivons de loin les traces des mêmes peuples dont nous ne laissons plus de craindre le fort. Par exemple, on m'assure que l'éducation de la jeunesse est généralement beaucoup meilleure qu'elle n'était autrefois. Ce qui pourtant ne peut guère se prouver qu'en montrant qu'elle fait de meilleurs citoyens. Il est certain que les enfants sont mieux révérence, qu'ils savent plus galamment donner la main aux dames et leur dire une infinité de gentillesses pour lesquelles je leur ferai moi donner le fouet, qu'ils savent décider, trancher, interroger, couper la parole aux hommes, importuner tout le monde sans modestie et sans discrétion. On me dit que cela les forme. Je conviens que cela les forme à être impertinent, et c'est de toutes les choses qu'ils apprennent par cette méthode la seule qu'ils n'oublient point. Ce n'est pas tout. Pour les retenir auprès des femmes qu'ils sont destinés à désennuyer, on a soin d'élever précieusement comme elles. On les garantit du soleil, du vent, de la pluie, de la poussière, afin qu'ils ne puissent jamais rien supporter de tout cela. Ne pouvant les préserver entièrement du contact de l'air, on fait du moins qu'il ne leur arrive qu'après avoir perdu la moitié de son ressort. On les prive de tout exercice, on leur ôte toutes leurs facultés, on les rend ineptes à tout autre usage qu'aux soins auxquels ils sont destinés. Et la seule chose que les femmes n'exigent pas de ces vils esclaves, et de se consacrer à leur service, à la façon des orientaux. À cela près, tout ce qui les distingue d'elles, c'est que la nature leur ayant refusé les grâces, ils y substituent des ridicules. À mon dernier voyage à Genève, j'ai déjà vu plusieurs de ces jeunes demoiselles en juste au corps, les dents blanches, la main potelée, la voix flûtée, un joli parasol vert à la main, contrefaire assez maladroitement les hommes. On était plus grossier de mon temps. Les enfants rustiquement élevés n'avaient point de teint à conserver et ne craignaient point les injures de l'air auxquelles ils s'étaient aguerris de bonne heure. Les pères les menaient avec eux à la chasse, en campagne, à tous leurs exercices, dans toutes les sociétés. Timides et modestes devant les gens âgés, ils étaient hardis, fiers, querelleurs entre eux. Ils n'avaient point de frisure à conserver. Ils se défiaient à la lutte, à la course, au coup. Ils se battaient à bon escient, se blessaient quelquefois, et puis s'embrassaient en pleurant. Ils revenaient au logis, suants, essoufflés, déchirés. C'étaient de vrais polissons, mais ces polissons ont fait des hommes qui ont dans le cœur du zèle pour servir la patrie et du sang versé pour elle. Plaise à Dieu qu'on en puisse dire autant un jour de nos beaux petits messieurs requinqués, et que ces hommes de 15 ans ne soient pas des enfants à 30. Heureusement, ils ne sont pas tous ainsi. Le plus grand nombre encore a gardé cette antique rudesse conservatrice de la bonne constitution ainsi que des bonnes mœurs. Ceux même qu'une éducation trop délicate amollit pour un temps seront contraints, étant grands, de se plier aux habitudes de leurs compatriotes. Les uns perdront leur âpreté dans le commerce du monde, les autres gagneront des forces en les exerçant. Tous deviendront, je l'espère, ce que furent leurs ancêtres, ou du moins ce que leurs pères sont aujourd'hui. Mais ne nous flattons pas de conserver notre liberté en renonçant aux mœurs qui nous l'ont acquise. Je reviens à nos comédies, et toujours en leur supposant un succès qui me paraît impossible, je trouve que ce succès attaquera notre constitution, non seulement d'une manière indirecte en attaquant nos mœurs, mais immédiatement en rompant l'équilibre qui doit régner entre les diverses parties de l'État pour conserver le corps entier dans son assiette. Parmi plusieurs raisons que j'en pourrais donner, je me contenterai d'en choisir une qui convient mieux au plus grand nombre, parce qu'elle se borne à des considérations d'intérêt et d'argent, toujours plus sensibles aux vulgaires que des effets moraux dont il n'est pas en état de voir les liaisons avec leur cause ni l'influence sur le destin de l'État. On peut considérer les spectacles, quand ils réussissent, comme une espèce de taxe qui, bien que volontaire, n'en est pas moins onéreuse au peuple, parce qu'elle lui fournit une continuelle occasion de dépense à laquelle il ne résiste pas. Cette taxe est mauvaise, non seulement parce qu'il n'en revient rien au souverain, mais surtout parce que la répartition, loin d'être proportionnelle, charge le pauvre au-delà de ses forces et soulage le riche en suppléant aux amusements plus coûteux qu'il se donnerait au défaut de celui-ci. Il suffit, pour en convenir, de faire attention que la différence du prix des places n'est ni ne peut être en proportion de celle des fortunes des gens qui les remplissent. À la Comédie-Française, les premières loges et le théâtre sont à 4 francs pour l'ordinaire, à 6 quand on tierce. Le parterre est à 20 sols, on a même tenté plusieurs fois de l'augmenter. Or, on ne dira pas que le bien des plus riches qui vont au théâtre n'est que le quadruple du bien des plus pauvres qui vont au parterre. Généralement parlant, les premiers sont d'une opulence excessive, et la plupart des autres n'ont rien. De cette manière, celui qui a peu paye beaucoup, et celui qui a beaucoup paye peu. Je ne vois pas quelle grande justice on trouve à cela. On me demandera qui force le pauvre d'aller au spectacle. Je répondrai premièrement, ceux qui les établissent et lui en donnent la tentation. En second lieu, sa pauvreté même, qui le condamnant à des travaux continuels, sans espoir de les voir finir, lui rend quelques délassements plus nécessaires pour les supporter. Il ne se tient point malheureux de travailler sans relâche, quand tout le monde en fait de même. Mais n'est-il pas cruel à celui qui travaille de se priver des récréations des gens oisifs? Il les partage donc. Et ce même amusement, qui fournit un moyen d'économie aux riches, affaiblit doublement le pauvre, soit par un surcroît réel de dépenses, soit par moins de zèle au travail, comme je l'ai ci-devant expliqué. De ces nouvelles réflexions, il suit évidemment, ce me semble, que les spectacles modernes où l'on assiste qu'à prix d'argent tendent partout à favoriser et augmenter l'inégalité des fortunes, moins sensiblement, il est vrai, dans les capitales que dans une petite ville comme la nôtre. Si j'accorde que cette inégalité, portée jusqu'à un certain point, peut avoir ses avantages, vous m'accorderez bien aussi qu'elle doit avoir des bornes, surtout dans un petit État et surtout dans une république. Dans une monarchie, où tous les ordres sont intermédiaires entre le prince et le peuple, il peut être assez indifférent que quelques hommes passent de l'un à l'autre, car, comme d'autres les remplacent, ce changement n'interrompt point la progression. Mais dans une démocratie où les sujets et le souverain ne sont que les mêmes hommes considérés sous différents rapports, sitôt que le plus petit nombre l'emporte en richesse sur le grand, il faut que l'État périsse ou change de forme. Soit que le riche devienne plus riche ou le pauvre plus indigent, la différence des fortunes n'en augmente pas moins d'une manière que de l'autre. Et cette différence, portée au-delà de sa mesure, est ce qui détruit l'équilibre dont j'ai parlé. Jamais dans une monarchie l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince, mais dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Alors le gouvernement n'a plus de force et le riche est toujours le vrai souverain. Sur ces maximes incontestables, il reste à considérer si l'inégalité n'a pas atteint parmi nous le dernier terme où elle peut parvenir sans ébranler la République. Je m'en rapporte là-dessus à ceux qui connaissent mieux que moi notre Constitution et la répartition de nos richesses. Ce que je sais, c'est que le temps seul donnant à l'ordre des choses une pente naturelle vers cette inégalité et un progrès successif jusqu'à son dernier terme, c'est une grande imprudence de l'accélérer encore par des établissements qui la favorisent. Le grand Sully, qui nous aimait, nous l'eût bien su dire. Spectacles et comédies dans toute petite république et surtout dans Genève affaiblissent l'État. Si le seul établissement du théâtre nous est si nuisible, quels fruits tirons-nous des pièces qu'on y représente ? Les avantages mêmes qu'elles peuvent procurer au peuple pour qu'elles ont été composées, nous tourneront à préjudice en nous donnant pour instruction ce qu'on leur a donné pour censure, ou du moins en dirigeant nos goûts et nos inclinations sur les choses du monde qui nous conviennent le moins. La tragédie nous représentera des tyrans et des héros. Qu'en avons-nous à faire ? Sommes-nous faits pour en avoir ou le devenir ? Elle nous donnera une vaine admiration de puissance et de la grandeur. Mais de quoi nous servira-t-elle ? Serons-nous plus grands ou plus puissants pour cela ? Que nous importe d'aller étudier sur la scène les devoirs des rois, en négligeant de remplir les nôtres ? La stérile admiration des vertus du théâtre nous dédommagera-t-elle des vertus simples et modestes qui font le bon citoyen ? Au lieu de nous guérir de nos ridicules, la comédie nous portera à ceux d'autrui. Elle nous persuadera que nous avons tort de mépriser des vices qu'on estime si fortes ailleurs. Quelque extravagant que soit un marquis, c'est un marquis, enfin. Concevez combien ce titre sonne dans un pays assez heureux pendant mon vrai avoir, et qui fait combien de courtauds croiront se mettre à la mode en imitant les marquis du siècle dernier. Je ne répéterai point ce que j'ai déjà dit de la bonne foi toujours raillée, du fils adroit toujours triomphant et de l'exemple continuel des forfaits mis en plaisanterie. Quelle leçon pour un peuple dont tous les sentiments ont encore leur droiture naturelle, qui croit qu'un scélérat est toujours méprisable et qu'un homme de bien ne peut être ridicule. Quoi ? Platon bannissait Homère de sa république. Et nous souffrirons Molière dans la nôtre ? Mais que pourrait-il nous arriver de pis que de ressembler aux gens qu'il nous peint, même à ceux qu'il nous fait aimer ? J'en ai dit assez, je crois, sur le chapitre, et je ne pense guère mieux des héros de Racine, de ces héros si parés, si doucereux, si tendres, qui sous un air de courage et de vertu ne nous montrent que les modèles de jeunes gens dont j'ai parlé, livrés à la galanterie, à la mollesse, à l'amour, à tout ce qui peut efféminer l'homme et alatiédir sur le goût de ses véritables devoirs. Tout le théâtre français ne respire que la tendresse. C'est la grande vertu à laquelle on y sacrifie toutes les autres, ou du moins qu'on y rend la plus chère aux spectateurs. Je ne dis pas qu'on ait tort en cela quant à l'objet du poète. Je sais que l'homme sans passion est une chimère, que l'intérêt du théâtre n'est fondé que sur les passions, que le cœur ne s'intéresse point à celles qui lui sont étrangères, ni à celles qu'on n'aime pas avoir en autrui, quoi qu'on y soit sujet soi-même. L'amour de l'humanité et celui de la patrie sont les sentiments dont les peintures touchent le plus ceux qui s'en sont pénétrés. Mais quand ces deux passions sont éteintes, il ne reste que l'amour proprement dit pour leur suppléer, parce que son charme est plus naturel et s'efface plus difficilement du cœur que celui de toutes les autres. Cependant, il n'est pas également convenable à tous les hommes. C'est plutôt comme supplément des bons sentiments que comme bon sentiment lui-même qu'on peut l'admettre. Non qu'il ne soit louable en soi, comme toute passion bien réglée, mais parce que les excès en sont dangereux et inévitables. Le plus méchant des hommes est celui qui s'isole le plus, qui concentre le plus son cœur en lui-même. Le meilleur est celui qui partage également ses affections à tous ses semblables. Il vaut beaucoup mieux aimer une maîtresse que de s'aimer seul au monde. Mais quiconque aime tendrement ses parents, ses amis, sa patrie et le genre humain se dégrade par un attachement désordonné qui nuit bientôt à tous les autres et leur est infailliblement préféré. Sur ce principe, je dis qu'il y a des pays où leurs mœurs sont si mauvaises qu'on serait trop heureux d'y pouvoir remonter à l'amour. D'autres où elles sont assez bonnes pour qu'il soit fâcheux d'y descendre. Et j'ose croire le mien dans ce dernier cas. J'ajouterai que les objets trop passionnés sont plus dangereux à nous montrer qu'à personne, parce que nous n'avons naturellement que trop de penchants à les aimer. Sous un air flegmatique et froid, le Genevois cache une âme ardente et sensible, plus facile à émouvoir qu'à retenir. Dans ce séjour de la raison, la beauté n'est pas étrangère ni sans empire. Le levain de la mélancolie fait souvent fermenter l'amour. Les hommes n'y sont que trop capables de sentir des passions violentes, et les femmes de les inspirer, et les tristes effets qu'elles y ont quelquefois produits ne montrent que trop le danger de les exciter par des spectacles touchants et tendres. Si les héros de quelques pièces soumettent l'amour au devoir en admirant leur force, le cœur se prête à leur faiblesse. On apprend moins à se donner le courage qu'à se mettre dans le cadre d'en avoir besoin. C'est plus d'exercice pour la vertu, mais qui ose exposer à ces combats mérite d'y succomber. L'amour même prend son masque pour la surprendre. Il se pare de fort enthousiasme. Il usurpe sa force. Il affecte son langage. Et quand on s'aperçoit de l'erreur, il est tard pour en revenir. Que d'hommes bien nés, séduits par ses apparences, d'amants tendres et généreux qu'ils étaient d'abord, sont devenus par degrés de vils corrupteurs sans mœurs, sans respect pour la foi conjugale, sans égard pour les droits de la confiance et de l'amitié. Heureux qui sait se reconnaître au bord du précipice et s'empêcher d'y tomber. Est-ce au milieu d'une course rapide qu'on doit espérer de s'arrêter? Est-ce en s'attendrissant tous les jours qu'on apprend à surmonter la tendresse? On triomphe aisément d'un faible penchant. Mais celui qui connut le véritable amour et l'a su vaincre, ah, pardonnons à ce mortel, s'il existe, d'oser présenter à la vertu. Ainsi, de quelque manière qu'on envisage les choses, la même vérité nous frappe toujours. Tout ce que les pièces de théâtre peuvent avoir d'utile à ceux qui en ont été faites nous deviendra préjudiciable jusqu'au jour que nous croirons avoir acquis par elles et qui ne sera qu'un faux goût, sans tact et sans délicatesse, substitué mal à propos parmi nous à la solidité de la raison. Le goût tient à plusieurs choses. Les recherches d'imitation qu'on voit au théâtre, les comparaisons qu'on a lieu d'y faire, les réflexions sur l'art de plaire aux spectateurs, peuvent le faire germer, mais non suffire à son développement. Il faut de grandes villes, il faut des beaux-arts et du luxe, il faut un commerce intime entre les citoyens, il faut une étroite dépendance les uns des autres, il faut de la galanterie et même de la débauche, il faut des vices qu'on soit forcé d'embellir pour faire chercher à tout pas formes agréables et réussir à les trouver. Une partie de ces choses nous manquera toujours, et nous devons trembler d'acquérir l'autre. Nous aurons des comédiens, mais quels ? Une bonne troupe viendra-t-elle de but en blanc s'établir dans une ville de 24 000 âmes ? Nous en aurons donc d'abord de mauvais, et nous serons d'abord de mauvais juges. Les formerons-nous si nous formerons ? Nous aurons de bonnes pièces, mais les recevant pour telles sur la parole d'autrui, nous serons dispensés de les examiner et ne gagnerons pas plus à les voir jouer qu'à les lire. Nous n'en serons pas moins les connaisseurs, les arbitres du théâtre. Nous n'en voudrons pas moins décider pour notre argent et n'en serons que plus ridicules. On ne l'est point pour manquer de goût quand on le méprise, mais c'est l'être que de s'en piquer de n'avoir qu'un mauvais. Et qu'est-ce au fond que ce goût si vanté ? L'art de se connaître en petites choses. En vérité, quand on en a une aussi grande à conserver que la liberté, tout le reste est bien puéril. Je ne vois qu'un remède à tant d'inconvénients, c'est que pour nous approprier les drames de notre théâtre, nous les composions nous-mêmes, et que nous ayons des auteurs ayant des comédiens. Car il n'est pas bon qu'on nous montre toutes sortes d'imitations, mais seulement celles des choses honnêtes, et qui conviennent à des hommes libres. Il est sûr que des pièces tirées comme celles des Grecs, des malheurs passés de la patrie ou des défauts présents du peuple, pourraient offrir aux spectateurs des leçons utiles. Alors, quels seront les héros de nos tragédies ? Des Berteliers, des Lèvreries ? Ah, dignes citoyens, vous fûtes des héros, sans doute, mais votre obscurité vous avilit, vos noms communs déshonorent nos grandes âmes. Et nous ne sommes plus assez grands nous-mêmes pour vous savoir admirer. Quels seront nos tyrans ? Des antishommes de la cuillère ? Des évêques de Genève, des comtes de Savoie, des ancêtres d'une maison avec laquelle nous venons de traiter, à qui nous devons tous du respect ? 50 ans plus tôt, je ne répondrai pas que le diable et l'antéchrist n'y eussent aussi fait leur rôle. Chez les Grecs, peuple d'ailleurs assez badin, tout était grave et sérieux, sitôt qu'il s'agissait de la patrie. On n'ose parler d'héroïsme que dans les grands États, quoi qu'on en trouve que dans les petits.